Les Canuts, troisième partie, chapitre 7. Tout le faubourg escortait le pauvre cercueil. Quatre planches de sapin clouées ensemble, avec un drap noir jeté dessus. 8000 ouvriers, ferrandiniers ou mutuellistes, accompagnaient leurs camarades à sa dernière demeure. Ils affirmaient ainsi leur solidarité, même après la mort, protestaient contre la loi qui frappait leur association, et prenaient cette occasion pour faire la revue de leurs forces, résolus à soutenir jusqu'au bout ce qu'ils considéraient comme des droits inviolables. De la rue des Fantasques, où était le domicile du défunt, le troupeau humain s'écoulait par masses profondes, interminables, et serpentait à travers la côte Saint-Sébastien, la place Croix-Paquet, la montée de la glacière. Tous ces hommes marchaient graves. Un grand nombre portait à la boutonnière une rosette, formée de rubans blancs, verts et jaunes immortels. Maintenant, ils traversaient le quartier de la fabrique. Les patrons, les commis que la peur n'avait pas encore chassés de leurs magasins, les regardaient passer, inquiets. Ils essayaient d'abord de dénombrer cette multitude, puis, de crainte d'en trouver le chiffre effrayant, ils renonçaient à compter. Défilant tête haute, les ouvriers jetaient des regards menaçants vers ces faces blêmes d'angoisse qui apparaissaient çà et là derrière les vitres, au-dessus des écrans verts. Leurs pas résonnaient dans les rues désertes que le mouvement du travail n'animait plus. Les hautes maisons noires, hermétiquement fermées, avaient l'aspect morne, glacial, de gigantesques tombeaux. Et le flot, descendant toujours, suivait les méandres des rues et traversait la place des terreaux. Partout, derrière les fenêtres, se montraient des visages effarés. Bientôt, la tête du cortège franchit le pont de pierre, traversa la place du Change et s'engagea dans les ruelles tortueuses qui longeaient le pied de la colline. Des mutuellistes portaient le cercueil et se relayaient, quatre par quatre. À la montée du Gourguillon, les porteurs donnant l'allure, on ralentit la marche sans s'arrêter. Lentement, les ouvriers gravissaient la rampe entre les masures pauvres. La queue n'avait pas encore franchi le pont de pierre que la tête arrivait déjà au sommet de la côte. L'immense cortège, à travers les places, les quais, se déroulait comme un interminable serpent. On atteignit la place des Minimes, fangeuse et souillée d'immondices, où se tenait le marché au port. Là, un homme se détachant des premiers rangs s'arrêta, comme pour chercher quelqu'un dans la foule qui défilait. Longtemps, il fouilla des yeux les rangs pressés des ouvriers, marchant trois par trois. Apercevant enfin celui qui l'attendait, « Marius » appela-t-il. Marius montait, le regard perdu, plongé dans ses rêves. Il tourna brusquement la tête. « Ah, Nerbollier !» Aussitôt, il quitta son rang et rejoignit son camarade qui le prit sous le bras et l'entraîna vers le chemin neuf. « J'ai à te parler, » lui dit-il. « Hier, je n'ai rien voulu te dire devant Martinon, qui n'est pas des nôtres. Mais voici. Tu sais qu'avant-hier a eu lieu une réunion du comité. En présence de tous les chefs de section, on a proposé d'élire de nouveaux chefs, destinés à encadrer les mutuellistes et les ouvriers de bonne volonté qui se joindront à nous. Tu me comprends? J'ai parlé de toi. J'ai raconté ta conduite en novembre. On n'a pas fait d'objection et tu as été accepté à l'unanimité. Un de ces jours, tu recevras ta nomination de chef de section avec une médaille distinctive. Seulement, comme le grabuge peut commencer d'un moment à l'autre, sans qu'on ait le temps de s'entendre, je veux te montrer un endroit où sont déposées des armes. et des munitions. Le comité a eu la prévoyance de créer 3 dépôts. L'un à Saint-Jean, que tu vas voir, l'autre à la Croix-Rousse, et le troisième à la Guillotière. Marius l'écoutait attentivement. « Le premier jour où l'on se battra, » continua Nerbollier, « chaque chef de section, sur la présentation de sa médaille, recevra 10 fusils et des cartouches. Il armera le reste de ses hommes comme il pourra, car la caisse de la société n'est pas riche. Il y a des armes chez les armuriers, il y en a entre les mains des soldats. D'ailleurs, avec un fusil, on peut en prendre un autre, n'est-ce pas ?»« Oui, oui, » dit Marius fièrement. « En novembre, nous en avons enlevé avec des bâtons et des pierres. » Arrivés au bas du chemin neuf, les deux ouvriers prirent la rue du Bœuf et gagnèrent la rue Saint-Jean. Nerbollier s'arrêta devant une vieille maison percée de fenêtres à meneaux qui avait 2 entrées, l'une sur la rue Saint-Jean, l'autre sur la rue des Trois-Maries. À droite de l'allée, un plat à barbe se balançait devant une étroite boutique. Sur la porte vitrée, on lisait, en lettres noires, « Landouin, perruquier, 5 sous la coupe des cheveux avec la frisure, salon prolétaire. » « Entrons, » dit Nerbollier sans plus d'explication. Ils entrèrent. Un petit vieux, l'air chafouin, rasait une pratique du quartier, un boucher rougeau, venu comme il était, avec un tablier blanc, maculé de sang. D'une main légère, le barbier passait le rasoir sur cette épaisse figure barbouillée de savon et essuyait la lame sur un chiffon crasseux. « Salut !» fit Nerbollier, soulevant son chapeau. « Donnez-vous donc la peine de vous asseoir, messieurs, » dit le barbier. « Je vais être à vous. » Ils s'assirent. Au bout d'un instant, le boucher se leva, complètement rasé, alla se laver sous le robinet, refusa de mettre du vinaigre, s'essuya les joues et, reprenant sa casquette, sortit lourdement. « Auquel de ces messieurs ?» demanda le barbier. Nerbollier se mit à rire et, s'approchant, « Conduis-nous à ta cave, citoyen, » dit-il. « À ma cave ?» Le petit vieux joua l'étonnement. Depuis longtemps, il redoutait une descente de police. « À ma cave ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. »«
Allons, allons, » reprit Nerbollier.
« Tu vas voir que nous sommes des amis. » Il chercha dans une poche de son gilet et en tira une médaille d'argent portant d'un côté une république coiffée d'un bonnet phrygien, de l'autre, droit de l'homme, chef de la 7e section.
« À la bonne heure, citoyen !» fit le barbier changeant de mine.
« Tu m'excuseras, mais pour éviter les surprises, je suis obligé de me faire montrer patte blanche.
« Ainsi tu désires, citoyen ?»«
Je voudrais montrer la cachette au citoyen Marius Jacquemin que voici. »
Et que le comité vient de nommer aussi chef de section.
Il faut que, le jour de la prochaine audience, s'il y a du grabuge, il sache où armer ses hommes. On ne danse pas sans violon, hein ? Avec un mauvais rire, le petit vieux ouvrit la porte de l'arrière-boutique, avertit sa femme qu'il descendait, puis, prenant une chandelle et une grosse clé,
« Eh bien, » dit-il.
« Descendons. » Ils sortirent par une porte donnant sur l'allée, traversèrent une cour obscure, suant l'humidité, au milieu de laquelle s'effritait un vieux puits, et arrivèrent à l'escalier qui conduisait aux caves. Le barbier alluma sa chandelle, et les deux hommes s'engagèrent à sa suite. Après avoir descendu 30 marches, à la lueur vacillante du flambeau, ils suivirent un long couloir sablé, bordé de portes vermoulues. Tout au fond, le vieux s'arrêta et introduisit dans une serrure la clé qu'il tenait à la main. La porte tourna sur ses gonds avec un grincement, et le barbier, livrant passage à ses compagnons,
pénétra à son tour et poussa le verrou.
« Comme ça, dit-il, pas de surprise possible. »
La cave avait à peine 20 pieds carrés. Une dizaine de vieux tonneaux occupaient la moitié de la place, les uns posés sur des madriers, les autres simplement calés avec des briques. Un seul était en Perse, avec une écuelle de terre placée sous le robinet. Quand il eut sondé du regard tous les recoins,
« Où sont donc les armes ?» demanda Marius.
« Patience, citoyen, murmura le vieux. Tiens un peu la chandelle. » Alors, avec précaution, il se mit à remuer le tonneau en Perse et le déplaça d'un mètre environ. Puis, de la main balayant le sable au pied du mur, il mit à découvert une tête de clou sur laquelle il appuya. Brusquement, la paroi s'ouvrit, laissant une ouverture assez grande pour permettre à un homme de passer. « Suivez-moi, dit le barbier. Reprenant la chandelle des mains de Marius, il se courba et, marchant à quatre pattes, s'introduisit dans le trou. Les deux hommes l'imitèrent. Tout à coup, ils se trouvèrent dans un vaste caveau voûté. Tout le long des murs, des caisses s'alignaient. Des tonnelets cerclés de fer s'amoncelaient les uns sur les autres.
« Voilà un des arsenaux de la République !»
fit le barbier avec orgueil.
« Et le comité m'a fait l'honneur de m'en constituer le gardien.
Regardez » ajouta-t-il soulevant un couvercle. « Voici des fusils.
Là, il y a des sabres. Ici, des pistolets.
Ces tonneaux sont remplis les uns de poudre, les autres de balles.
Et ça, continua-t-il en ouvrant une petite caisse, ce sont les étendards qui conduiront le peuple à la victoire.
Les drapeaux, dont la vue seule fera trembler les bourgeois, reculer les sbires de la tyrannie.
Et déployant une pièce de cotonnade, il leur montra l'inscription « Droits de l'homme » en grosses lettres blanches sur le fond rouge. Le jour où commencerait la lutte, chaque chef de section recevrait un drapeau avec 10 fusils munis de leurs baïonnettes, 10 sabres et des cartouches.
Toutes ces armes, toutes ces munitions avaient été apportées là de nuit par des hommes sûrs. C'était lui-même qui avait offert cette cachette au comité. Nul autre que lui ne la connaissait dans la maison. Il l'avait découverte un jour par hasard. En déplaçant un tonneau, un choc avait fait jouer le ressort. Les armes étaient là en toute sûreté. Jamais la police n'aurait idée de venir fouiller cette cave. Pour expliquer les allées et venues des gens qu'il y amenait chaque jour, il disait au voisin que son frère, vigneron dans le Beaujolais, lui avait envoyé du vin à vendre. Marius s'était rapproché d'une excavation à demi cachée par un amas de caisses.
« Qu'est-ce donc que ce trou ? » demanda-t-il.
« C'est l'entrée d'un souterrain. J'ai toujours entendu dire, par les anciens du quartier, que plusieurs souterrains allaient de cette rive de la Saône au versant de Fourvière, qui regarde Vaise.
Celui-ci doit y aller.
Un jour, j'ai voulu en avoir le cœur net. Je m'y suis engagé, une lanterne à la main.
La voie est encore en parfait état, assez élevée partout, pour qu'un homme puisse y marcher debout sans se heurter la tête.
On rencontre seulement, ça et là, des infiltrations provenant des sources de la colline. Je marchais lentement, depuis une demi-heure environ, toujours en montant, lorsque je me suis trouvé tout à coup devant une bifurcation. Alors, ma foi, j'ai eu peur de me perdre, et je suis revenu sur mes pas. Mais je réponds qu'on doit déboucher de l'autre côté de la colline, près de Vaise, probablement.
« C'est étrange, » dit Marius.
« Qui a pu percer ces souterrains ? Et à quoi pouvait-il servir ?»«
Ah, vous m'en demandez trop. Peut-être cette voie fut-elle créée au temps de la Ligue ou des guerres de religion ?
pour permettre aux persécutés de fuir la ville ou aux agresseurs de pénétrer dans la place.
« Ou tout bonnement, dit Nerbollier, par quelque honnête négociant pour introduire en fraude du vin ou d'autres marchandises. »
« C'est bien possible, ricana le barbier.
« En tout cas, reprit Marius,
il n'est pas inutile de savoir qu'il y a là un passage souterrain.
En temps d'insurrection, il pourrait servir à autre chose qu'à introduire des boissons.
Oui, par exemple à demander du secours au comité républicain des villes voisines,
dans le cas où Lyon serait cerné par les troupes. »
Le vieux hocha la tête sans faire de réflexion et, se dirigeant vers le trou par lequel ils avaient passé,
« À présent que vous connaissez la cachette, dit-il, nous n'avons plus rien à faire ici.
Il n'y fait pas bon. Tenez, sentez-vous ce courant d'air qui agite la flamme de la chandelle ? »
« Ouais, ouais, ce n'est pas douteux. Le souterrain traverse la montagne. »
« Eh bien, remontons. J'ai peut-être là-haut des clients. Il ne faut pas éveiller l'attention. »
Un à un, se glissant par l'étroite ouverture, ils repassèrent dans la cave. Le barbier tira sur lui la porte secrète, qui se referma avec un bruit métallique, et remit le tonneau à son ancienne place, avec l'écuelle au-dessous du robinet. Puis les trois hommes remontèrent, le vieux marchant le premier, et sa maigre silhouette s'esquissant sur le mur à la lueur de la lanterne. Dans la boutique, ils trouvèrent un homme qui attendait.
« C'est vous le barbier ? » dit-il.
« Oui, monsieur. Veuillez vous placer là. » Landoin crut remarquer que cet inconnu l'examinait avec une attention particulière.
Hein, si c'était un mouchard,
il fallait détourner les soupçons.
« Eh bien, l'ami, dit-il à Nerbollier avec un imperceptible clignement de l'œil.
« Que décidons-nous pour ce vin ? Le prenez-vous, oui ou non ?»«
Ma foi, dit Nerbollier, je ne le trouve pas mauvais.
À part les francs, le plus grand défaut que je lui trouve, c'est d'être trop cher.
Allez, rabattez de 10 francs. »«
Oh, vous n'êtes pas gêné. Du vin comme celui-là tient son prix. Je ne serais pas embarrassé de le vendre. D'ailleurs, mon frère ne veut pas le donner pour un sou de moins. Inutile de marchander, l'ami, hein ? Puisque nous ne pouvons pas nous entendre, bonsoir. »
L'air bourru, il poussa Marius et Nerbollier vers la porte, les mit dehors et referma brusquement. Comme il passait la serviette sous le menton du client,
« Ah, c'est vrai !» murmura-t-il comme se parlant à lui-même. L'ouvrage ne se fait pas en bavardant. Il voudrait bien mon vin, mais pour un peu, il faudrait le leur donner pour rien. Qu'ils aillent se fournir ailleurs. »
Le client resta muet. Le vin du barbier semblait peu l'intéresser. À la fin, agacé de son silence, Landoin, rageusement, se mit à frotter de son blaireau le visage du patient, le couvrant de mousse jusqu'aux yeux.